Est-ce que... Ah oui, alors je sais pas, j'ai eu un problème de micro qui s'est désactivé, j'en suis bien désolé. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 15 novembre 2025, il est 21h34, je vais vous refaire l'intro. Les bruits de bottes se font de plus en plus menaçants dans les endroits où la poudre n'a pas encore parlé, les promesses de paix et de cessez-le-feu apparaissent bien fragiles dans des endroits où la puissance impériale américaine réussit à les imposer, et nous vivons désormais dans une ambiance fébrile où l'éclatement de conflits anciens et maintenus gelés par l'autorité de l'ordre international semble sur le point de s'aviver un peu partout. L'instabilité se répand et frappe des régimes qui semblaient solides, des statu quo qui paraissaient durables. Sur fond d'effritement de l'ordre mondial, les géants américains et chinois et leurs alliés se préparent au choc et tentent de modeler le champ de bataille global à leur avantage avant l'ouverture des hostilités. Voilà ce que j'avais essayé de vous dire correctement. Je suis désolé, j'avais coupé mon micro et quand je l'ai rallumé, en fait, je sais pas, il a sauté et donc... Malheureusement, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, est-ce que c'est lié au fait que j'ai préparé d'autres trucs? Parce que j'ai. Alors, je vais voir si ça fonctionne. J'ai bidouillé des machins pour que je puisse vous montrer des choses en direct. Des cartes et des trucs comme ça. Genre ça. Vous voyez? On va essayer de faire ça comme ça. Comme ça, je pourrais vous montrer en direct. C'est plus facile que de décrire. Je pourrais vous montrer des choses comme ça. Que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Enfin, pour l'instant, c'est pas nécessaire, mais on va essayer de, comme ça, de technifier un peu. Alors, bien sûr, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas au détriment de ce qui marchait déjà techniquement, mais voilà, toujours pareil, c'est le perpétuel rodage. Donc aujourd'hui, ouais, je voulais faire un point alors sur un certain nombre de choses. Je vais vous reparler tout à l'heure. Les gens qui ont suivi le bulletin sont déjà un peu au courant, mais de la situation entre l'Inde et le Pakistan, notamment, où il s'est passé des choses cette semaine. Mais j'ai pensé que comme il y a aussi des choses qui semblaient se préparer ces jours-ci, pour l'instant rien de particulièrement net, mais malgré tout se préparer tout de même autour du Venezuela, par exemple. Et que d'autre part, il y a d'autres annonces qui ont été faites à droite à gauche, et on sait aussi que ça bouge, enfin ça bouge comme ça bouge sans bouger, mais ça bouge toujours, entre l'Ukraine et la Russie. Je me suis dit que c'était autant de faire un sujet global pour faire le point général, parce que le fil conducteur, c'est bien ça. Le fil conducteur, c'est bien l'effritement de l'ordre international. Et sa future recomposition avec, dans le climat, hein, j'ai parlé un peu la semaine dernière en disant le retour de la peur nucléaire, mais il y a aussi tout simplement le retour de l'idée de la guerre et de l'idée de la guerre comme étant relativement imminente. C'est ça aussi qui est de plus en plus nouveau, parce que ça fait plusieurs années qu'on parle du fait que, ben, à terme, voilà, dans quelques années, il y a un risque de guerre entre l'OTAN et la Russie, entre l'Amérique et la Chine, par exemple. Mais malgré tout, à force, les années passant, eh bien, ces choses-là deviennent plus tangibles et deviennent plus imminentes. Et c'est comme ça qu'on a appris cette semaine, dans un article qui avait, je crois que c'est un haut responsable, plus ou moins anonyme du renseignement allemand, mais qui disait que la Russie pouvait attaquer l'OTAN à tout moment, alors que le message qu'on passait plus tôt, c'était dans quelques années, hein, toujours, on parlait de 2029, 2030, enfin ça laissait toujours quelques années pour se préparer. L'erreur étant, et ça on avait eu l'occasion de le souligner, dans ce genre de projection, que vous utilisez ces perspectives-là pour justifier le fait d'agir. Du coup, par exemple, vous dites, la Russie pourrait nous attaquer dans 4 ans, donc il faut qu'on soit prêt, donc il faut qu'on se réarme, qu'on se remette en état d'affronter une telle invasion. Mais il faut bien se rendre compte que ce faisant, forcément, le calendrier, d'une certaine manière, ne tient plus. Parce que de deux choses l'une, soit du coup... Dans quelques années, vous serez trop puissant pour être attaqué, et donc vous ne serez pas attaqué. Auquel cas, tant mieux, hein, celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais aussi et surtout, à partir du moment où la réalité où vous commencez à réagir, il est probable que vous accélérez, vous diminuez le temps de percolation chez votre adversaire, qui pouvait estimer qu'il fallait qu'il vous frappe, et que c'est pour ça que dans quelques années, il s'y prépare. Et qui donc se mettra à décider qu'il faut frapper plus vite. Et donc avec la Russie, typiquement, c'est ce sur quoi on est, mais pas que, je vais y revenir, pas que la Russie. Il y a cette idée que, ben, voyant l'Europe se préparer décisivement à une guerre et ayant beaucoup progressé déjà depuis 3 ans dans sa remise en route, on est toujours en retard sur la Russie dans la mobilisation de notre assiette, on va dire, mais l'assiette est tellement importante qu'il suffit d'arriver même à un taux inférieur de mobilisation à celui de la Russie pour, en volume, être au niveau. Et donc dans ce cas-là, vous créez chez votre adversaire la nécessité d'essayer lui-même de profiter de sa capacité de vous frapper tout de suite, en essayant de jouer sur l'avantage qu'il a pour remporter une victoire dans la fenêtre qui lui est possible. Et donc ça amène forcément le risque de guerre à être plus imminent. Alors d'abord, il y a le passage du temps qui vous rapproche de la date, parce que quand il y a 3 ans, on disait pas avant 2027, ben, on s'aperçoit que désormais 2027 ou 2028, c'est beaucoup plus proche qu'il y a 3 ans, forcément. Mais de son côté, il est très vraisemblable que la possibilité, la pensée même qu'il faille rentrer dans ce type de guerre, et même la capacité de le faire, soit réel du côté russe. Et on voit alors on voit plusieurs choses du côté russe. On voit un progrès sur le terrain à nouveau. Ils étaient bloqués depuis un moment, ils recommencent à avancer un petit peu. C'est pas extraordinaire encore, c'est du grignotage un peu accéléré, semble-t-il assez coûteux de leur côté, mais un grignotage qui a repris. Et dans le même temps, on a appris qu'il y avait la mise en place de nouvelles règles légales en Russie pour permettre de mobiliser les réservistes en Russie même. Alors, sous le prétexte de protéger les installations sensibles, hein, par exemple, notamment envoyer des gens dans les raffineries, etc. Mais enfin, vous ne protégerez pas les raffineries de pétrole russe ni certains nœuds logistiques ou énergétiques en envoyant des types avec des mitraillettes faire le planton. Je veux dire, ça n'empêchera pas les drones de frapper. Donc, il est vraisemblable que c'est plutôt un prétexte pour éventuellement dégager de la masse de manœuvre. Masse de manœuvre qui peut venir permettre, favoriser des rotations sur le terrain, venir combler des pertes aussi, qui sont lourdes dans la tentative d'accélération qu'ont mis les Russes, puisqu'ils avaient pris du retard sur leur calendrier, semble-t-il, mais qui peuvent aussi servir à créer une masse de manœuvre ailleurs, parce que vous pouvez aussi remplacer des troupes aguerries en Ukraine, par exemple, pour les mettre ailleurs pour des premières frappes, comme en direction des pays baltes, par exemple. Donc il y a ça, il y a la capacité désormais des Russes, là aussi la législation a été modifiée il y a 2 semaines, je crois, qui leur permet de mobiliser à l'intérieur des régions qui ont été annexées, et notamment dans la région de Zaporijja, parce que je pense que c'était déjà le cas dans le Donbass, mais dans les régions de Zaporijja et Kherson, a priori, j'avais fait me faire un petit calcul à Grok, et sans mobiliser la totalité des gens, parce qu'ils le feront vraisemblablement pas, mais ils pourraient arriver à dégager quelques dizaines de milliers de types comme ça. Il y a des nouveaux types aussi qui arrivent de Corée du Nord, donc la masse qui pourrait être nécessaire pour attaquer ailleurs peut être là assez vite. Elle peut être là assez vite. Et puis en plus, on s'aperçoit que l'augmentation, la production de drones russes a considérablement augmenté. Ils ont atteint le seuil d'à peu près 6 000 par mois, drones Shahed, enfin qu'ils appellent Guéran, eux. Sur l'année 2025, d'après le renseignement ukrainien, ils auront fabriqué 120 000 bombes FAB, vous savez, les bombes qu'ils utilisent, les bombes planantes avec le kit qu'ils rajoutent dessus pour marteler les positions ukrainiennes. Et vu le nombre qu'ils utilisent par jour, c'est-à-dire entre 200 et 250, ça voudrait dire qu'ils en auraient stocké une cinquantaine de milliers, quoi, puisqu'ils en ont utilisé 70 ou 80 000 sur l'année. Donc les capacités matérielles de la Russie au niveau industriel, la Russie est vraisemblablement pas loin du pic de ce qu'elle peut faire. Et donc, en même temps, elle commence à licencier, semble-t-il, dans certaines filières de comment dire, de remise en état des vieux tanks pour les envoyer au front, ben parce qu'il n'y a plus de vieux tanks. Donc ils en fabriquent de nouveaux, mais les usines qui étaient dédiées à la remise en service, ben, elles débauchent, puisqu'elles n'ont plus besoin d'autant de manœuvres. Ce qui veut dire aussi que la Russie atteint, et c'était ce qui était mentionné depuis un moment par les analystes, qu'ils disaient du fin 2025, début 2026, le stock des vieux matériels soviétiques serait épuisé. Donc voilà où on en est. Donc il y a ce risque qui a été mentionné donc par cet officier, semble-t-il, allemand, Mais qui est un risque réel, qu'on mentionne peu, parce qu'on continue, quand on le dit, à donner des dates plus éloignées pour expliquer qu'il faut se mobiliser, etc. Mais moi, je souscris à cette idée, effectivement, que ça peut être beaucoup plus imminent que ça. Même si, et je le dirai quand même, il n'est pas impossible que... Enfin, on verra encore une fois ce que ça donnera dans les semaines qui viennent, mais si les difficultés de l'armée ukrainienne s'accroissaient sur la ligne de front, puisqu'il y a des endroits, semble-t-il, où ça lâche un peu, notamment en direction de Zaporizhzhia, on pourrait rebasculer plutôt sur le scénario allemand, alors que vous savez que je privilégie le scénario japonais depuis cet été. Je continue à penser qu'on est plutôt en direction du scénario japonais, parce que le grignotage russe n'a pas non plus accéléré de manière extraordinaire, et malgré tout, les fondamentaux, on va dire, stratégiques qui pourraient pousser les Russes à passer à l'action contre l'OTAN sont tout de même là, c'est-à-dire que la montée en puissance de l'Europe continue et l'avancée russe n'est pas très rapide, et il y a des pressions aussi sur l'économie russe, donc je pense que ça maintient le scénario japonais, mais voilà, c'est pas une... à mon avis, pour rebasculer sur le scénario allemand, il faudrait qu'il y ait un endroit où il y ait une vraie percée russe, parce que l'armée ukrainienne perdrait pied. Bon. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il y a des endroits où les choses commencent à être inquiétantes. Donc ça, c'est pour le côté russe. Vous avez aussi le côté chinois, puisque du côté chinois, maintenant, alors on avait des rapports qui indiquaient que vraisemblablement, que ben, déjà c'est assez clair, Xi Jinping a demandé à l'armée, aurait demandé à l'armée d'être prête à, grosso modo, à reprendre Taïwan d'ici 2027. Donc j'avais souligné, je crois, devant vous que d'ici 2027, ça pouvait vouloir dire en 2026, hein, puisque c'était d'ici 2027, c'est pas en 2027. Et il y a maintenant des rapports qui semblent émerger. Alors je sais plus de quel... je crois que c'est le... voilà, c'est War Monitor sur X, mais en général, ces informations sont fiables, qui a dit ça tout à l'heure. Les renseignements occidentaux avertissent que la Chine pourrait essayer d'envahir Taïwan aussitôt. Que d'ici la fin 2026, donc ça fait proche d'ici la fin 2026, c'est vraiment pas loin, et en tout cas on voit que les choses effectivement finissent par devenir imminentes, et puis il y a d'autres choses aussi qui peuvent être pour le coup totalement imminentes, c'est par exemple l'invasion ou des frappes importantes au Venezuela, puisque vous savez que désormais l'opération a été lancée, elle a un nom, Southern Spear, c'est-à-dire la lance du Sud, qui vise en fait simplement à faire une démonstration de force, hein, en direction de l'Amérique du Sud, hein, pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Il y a un petit côté tenaille d'ailleurs autour du Brésil, entre l'Argentine et le Venezuela. Il y a vraiment cette idée aussi de contrer les efforts chinois pour venir un peu dans cet arrière-cour traditionnel des États-Unis qu'est l'Amérique du Sud. Et naturellement, il y a la volonté aussi d'éviter d'avoir quelqu'un capable de mettre un poignard dans le dos des États-Unis si jamais il y avait une confrontation qui apparaissait, notamment entre l'OTAN et la Russie ou entre la Chine et les États-Unis. Et l'OTAN dans son ensemble d'ailleurs. Donc, on assiste actuellement au plus important déploiement de force américain qu'il y ait eu depuis l'invasion de l'Irak, et c'est en direction du Venezuela. Et ça, c'est une chose intéressante parce que, et honnêtement, s'il y a... Vous savez, j'essaie toujours de ne pas faire juste du commentaire d'actualité, avec quelques petites analyses un peu plus fondamentales dans mes émissions, au moins à un moment de l'émission, histoire qu'on réfléchisse un petit peu au-delà des apparences. Ce sur quoi je voudrais m'interroger ce soir, et c'est aussi ce dont je parlais à propos de l'Inde et du Pakistan, c'est la question de la forme de cette confrontation mondiale qu'on va avoir, de sa forme exacte. Puisque, comme vous le savez, ce que je vous ai toujours dit, c'est que je ne pouvais pas savoir exactement quelle serait la forme de la confrontation mondiale, entre grosso modo le bloc autour de la Chine et l'ordre international sous égide américain. Simplement, ce que je peux dire, c'est que cette confrontation sera à la guerre froide ce que la Seconde Guerre mondiale a été à la Première Guerre mondiale. Donc, il faut trouver quels sont les bons éléments de projection sur la façon dont ça se fait. Alors, j'ai déjà essayé de le faire, notamment dans les émissions où je vais expliquer à quoi pourraient ressembler, et encore une fois, en dernier lieu, hein, puisque je l'ai fait il y a quelques semaines, à quoi pourraient ressembler les succès russes en Europe, hein, et où ça ressemblerait à ce moment-là aux succès occidentaux en Europe contre l'URSS dans les derniers mois de la guerre froide. Hein, ce serait l'équivalent d'une guerre de mouvement, mais à l'ère atomique, si vous voulez. Maintenant, il y a aussi la question de savoir le reste de la guerre avec la Chine, avec les États-Unis et les conflits secondaires, à quoi ça ressemblerait? Parce que le théâtre se limite pas à l'Europe. Et là, alors, j'ai pas de réponse, mais on a des petits éléments. Par exemple, ce qu'on voit déjà comme confrontation entre la puissance américaine et le bloc. Ce sont des actions ciblées sur des membres périphériques du bloc. Donc il y a eu le bombardement de l'Iran, il y a d'ores et déjà des frappes, mais bon, sur les bateaux de narcotrafiquants au Venezuela, mais il y a aussi, et c'est on va dire l'argumentaire qu'il y a derrière l'annonce de l'opération Southern Spear, il y a l'idée que c'est une guerre contre le narcotrafic. Une guerre au narcotrafic. Et il faut se rendre compte que dans la géostratégie américaine, la guerre contre ceci ou cela, c'est toujours une justification, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a rien à aller affronter effectivement, et qu'il n'y a pas effectivement un problème à régler. Mais le problème à régler sert lui-même souvent de prétexte à traiter une zone du monde. Donc vous aviez eu la guerre contre les drogues pendant à partir de l'ère à la fin de la guerre froide, et notamment sous l'ère Reagan, c'était clairement un moyen de se projeter, de justifier la projection de forces américaines en direction de l'Amérique du Sud, déjà à l'époque. Et vous le savez, Donald Trump a tendance à rééditer beaucoup les choses que faisait Reagan. Hein. Le Golden Dome, c'est une tentative de réussir là où quelque part l'initiative de défense stratégique avait échoué, même si d'une certaine manière l'initiative de défense stratégique avait échoué techniquement, mais avait réussi stratégiquement en tordant le bras de l'URSS. Donc il y a une réédition de stratégie dans le même sens, c'est normal, on est sur les mêmes acteurs qui s'affrontent. C'était le cas aussi entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais avec des moyens et un rendu qui doit être un petit peu différent. Et le fait est qu'il n'y a jamais eu d'opération de très très grande ampleur militaire. Même sur Reagan, il y a eu l'intervention à la Grenade, mais c'est pas les mêmes choses qui, semble-t-il, se préparent en direction de l'Amérique du Sud. Donc je disais tradition américaine, la guerre contre la terreur, l'idée c'était aussi de géostratégiquement tenir le Moyen-Orient et le remodeler dans l'intervalle entre la disparition de la puissance soviétique et l'émergence de la puissance chinoise en fait. C'était l'idée d'aller refoutre de l'ordre à cet endroit-là et de s'assurer définitivement du contrôle de la région. Avec si possible sa démocratisation, mais sa démocratisation était perçue comme un moyen de faire entrer un certain nombre de pays dans l'alliance américaine, hein, c'était ça aussi l'idée. Et donc, la guerre contre la terreur, ça s'est terminé, et là, on est à nouveau donc dans la guerre contre les narcotrafiquants. Et donc, l'idée, c'est de justifier la frappe sur ce qui est toujours un front secondaire, c'est pas un front direct, il s'agit pas d'aller taper directement sur l'adversaire. Encore que, parce que le Venezuela a des proximités très importantes avec le bloc en général, mais vous avez un des membres importants des BRICS en Amérique du Sud, qui est le Brésil. Et l'idée, malgré tout, c'est un peu de faire sentir le vent du boulet à la région, c'est-à-dire de rappeler la puissance américaine. Il y a vraiment un côté, selon moi, de démonstration de force dans ce truc-là. Et donc, si vous voulez, ça rappelle les moyens le type d'opération qui était fait pendant la guerre froide. C'est-à-dire où on va taper en gros sur vos alliés, sur vos copains pour vous envoyer un signal, mais on ne s'attaque pas directement en tant que puissance nucléaire. Hein. Je suis un peu écho, ou le contrepoint, si vous voulez, de l'émission que j'ai fait la semaine dernière. Donc dans ce cas-là, on va taper sur la périphérie. Donc on va taper sur les Iraniens en même temps qu'on négocie avec les Russes à propos de l'Ukraine. Et ensuite, comme ça n'a pas marché, on va taper sur les Vénézuéliens aussi. Ce n'est pas juste fait dans le cadre de la lutte contre contre la Russie et pour envoyer un signal, même si ça sert à ça. Mais ça tout un champ d'avantages ou de leviers que ça tire à la fois, si vous voulez, c'est que ça permet aussi de remettre la main, de renvoyer un signal, si vous voulez, sur l'Amérique du Sud. Pour dire, ça, c'est notre hémisphère. Ici, vous êtes prié de vous soumettre à la puissance américaine, y compris le Brésil. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte, et c'est vraisemblablement l'idée qu'il y a aussi dans le fait de faire tomber Maduro, c'est de mettre un régime pro-américain au Venezuela pour... Tiens, mais ça va être l'occasion d'aller chercher des trucs sur des cartes pour bien visualiser. Alors, du coup, je vais me remettre dans le coin. Pour pas, c'est pas tellement qu'il faut me voir, mais si vous voyez ma tête à moitié, ça sera un visionnage pas terrible. Donc, on va actionner. Voilà. Alors, comment je fais là? Je fais comme ça. Voilà. Alors, on va pas aller là. On va aller au... En Amérique du Sud. Voilà. Donc, vous avez ici le Venezuela. D'accord. Là, vous avez le Brésil. Et là, vous avez l'Argentine. Bon. L'Argentine, elle est déjà acquise aux Américains. Ils en font même des caisses depuis le début de Trump avec Milei. Il l'a fait récemment. Et d'une certaine manière, aller taper la Colombie et le Venezuela. Parce que la Colombie, alors il ne s'agit pas d'aller taper la Colombie pour l'instant. Il s'agit d'aller taper le Venezuela pour aussi envoyer un message à la Colombie. Hein. La Colombie, vraisemblablement, n'a pas envie qu'on tape sur son voisin, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. On a rarement envie que son voisin se fasse bombarder parce que vous pouvez avoir des afflux de réfugiés, vous pouvez avoir un tas de trucs. Généralement, c'est que des emmerdes hein, d'avoir un voisin qui est en guerre, de toute manière, donc on ne leur jette pas la pierre. Mais si vous regardez les choses comme ça, vous apercevez que il y a quand même un côté tenaille autour du Brésil, qui permettrait de rappeler au Brésil que, voilà, quelque côté, vous oubliez pour qui vous travaillez, ou c'est un machin comme ça. Hein. C'est un petit peu ça l'idée qu'il y aurait dans la projection, dans cette direction-là, de la part des États-Unis. Et naturellement, ça permet d'affermir. Donc il y a aussi toutes les menaces qui ont été proférées par Donald Trump à propos du fait que les BRICS, en gros, c'était pas sympa. C'était même des ennemis des États-Unis d'une certaine manière parce qu'ils cherchaient à affaiblir le dollar, etc. Et que toute tentative d'affaiblir véritablement le dollar serait rencontrée par la détermination américaine, enfin un truc comme ça. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc... Il y a le côté, voilà, c'est pour ça que je parlais de, vous savez, c'est ce qu'on dit souvent dans le militairement, dans les opérations militaires, avant qu'il y ait les grandes offensives, il y a le shaping, c'est-à-dire de mettre en forme le champ de bataille, c'est-à-dire vous préparez le champ de bataille en bombardant à des endroits, en disposant des troupes, etc., pour mettre les choses dans une disposition... dans la disposition préalable que vous voulez à vos manœuvres. Voilà, c'est-à-dire dans une position favorable aux manœuvres que vous entendez déployer ensuite, une fois que vous entrez effectivement dans le dur, en gros, dans l'offensive. Là, c'est un peu la même chose à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que chaque acteur, je le disais en introduction, tente de jouer les derniers coups avant le moment où il faudra aller à la cogne directement dur. Et donc, c'est ce que vraisemblablement les Américains veulent faire avec le Venezuela, en direction donc de l'Amérique du Sud. Et chacun le fait un petit peu de son côté. Vous avez, en manière d'intimidation, vous avez des messages qui ont été envoyés par la Chine au Japon, puisque vous avez le Japon qui a redit, alors c'est pas la première fois, c'est pas inédit, hein, mais qu'une attaque sur Taïwan serait perçue comme une menace pour le Japon, et que donc en fait le Japon interviendrait probablement aux côtés des Américains, ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est significatif, la puissance maritime japonaise. Et donc les Chinois se montrent menaçants depuis quelques jours avec le Japon, envers le Japon avec ça. Voilà, la Chine, elle prépare également le terrain, elle prépare ses forces, puisque cette semaine, ils ont mis un troisième porte-avions à l'eau et je crois qu'au total dans la journée on dit qu'ils ont mis, alors ils ont peut-être fait exprès de tout balancer dans la journée pour que justement ça ait un côté démonstration de force, ils ont mis à l'eau l'équivalent de la moitié de la flotte française dans la journée, ce qui ne préjuge pas de la qualité de la flotte chinoise encore une fois, mais voilà, ça envoie un signe aussi de ce côté-là. Et donc voilà, ce que je disais, c'est que vous avez déjà un parallèle à faire dans ce que font les États-Unis en direction de l'Amérique du Sud, mais avec peut-être des choses déjà plus musclées. Hein. Je ne sais pas si on peut dire que la Seconde Guerre mondiale était plus musclée que la Première Guerre mondiale, mais sur un certain nombre de théâtres, elle était plus spectaculaire dans les mouvements qui étaient engagés, etc. Mais il y a une autre chose que je veux revoir avec vous, justement, c'est la question de l'Inde et du Pakistan. Voilà, parce que là, dans cette région, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, et je crois que la dernière fois que j'en avais parlé, ça devait être au mois de juin, c'était un peu après les quelques jours de guerre, effectivement, qu'il y a eu entre le Pakistan et l'Inde. Et à ce moment-là, je vous avais dit, alors je vous ai fait un parallèle que j'avais déjà souvent fait, hein. Vous savez que je fais souvent le parallèle entre pour la situation en Asie aujourd'hui, je compare, si vous voulez, la situation à la veille de la Première Guerre mondiale, ce qui est le meilleur parallèle, puisqu'on a affaire à un pays, la Chine, qui est un ancien régime, pas un impérialiste revanchard, encore une fois. Et ce pays, parce qu'un impérialiste revanchard, un ancien régime, vous savez, une guerre d'ancien régime, à la fin, c'est toujours moins nerveux qu'une guerre d'impérialiste revanchard. C'est-à-dire que c'est souvent une guerre d'enlisement, c'est souvent limité sur les frontières, ça dure longtemps, c'est pénible, ça bouge pas beaucoup. Mais sur le plan stratégique, disons que je disais la Chine, je la compare souvent avec l'Allemagne. À ce moment-là, vous prenez les États-Unis, c'est l'Angleterre, et vous prenez l'Inde, c'était la Russie à l'époque. C'est-à-dire avec une Allemagne qui pensait qu'elle était sur le point de ravir la première puissance mondiale à l'Empire britannique, mais qui en même temps sentait que la Russie poussait derrière et risquait elle-même de lui piquer sa place. Et donc elle avait une fenêtre courte pour battre l'Angleterre et mettre la distance avec la Russie et s'établir, elle, comme première puissance mondiale. Donc la Chine est un peu dans cette situation entre les États-Unis et l'Inde. Et dans cette configuration, le Pakistan est dans une situation similaire, je vous en avais parlé, avec celle de l'Empire ottoman, cette espèce d'homme malade de l'Europe à la veille de la Première Guerre mondiale, qui, d'ailleurs, je vous avais fait des petits parallèles en vous rappelant que le corridor sino-pakistanais, par exemple, rappelait beaucoup le chemin de fer Berlin-Bagdad, qui était un peu l'équivalent, mais stratégiquement. Et pareil, l'idée du chemin de fer Berlin-Bagdad, c'était un peu de relier l'Empire allemand à l'Empire ottoman via l'Empire austro-hongrois, mais aussi d'aller, du coup, de débarquer en Irak sur les arrières de l'Empire britannique, et notamment en direction de l'Iran, hein, dans le cadre du Grand Jeu, etc. Vous connaissez. Le corridor sino-pakistanais, c'est un peu la même chose, hein. C'est l'idée pour la Chine d'aller en direction du Moyen-Orient, là où il y a le pétrole, toujours pareil, et l'Iran, en fait, ça n'a pas changé. Mais disons que le grand jeu entre la Chine et les États-Unis, c'est plutôt le Moyen-Orient dans son ensemble de nos jours. Voilà. Bref, donc ça, c'est, si vous voulez, l'arrière-plan historionomique de l'analyse du truc. Alors, et ce que je vous disais, c'est que dans ce cadre-là, il y avait une sorte d'expression de la loi log périodique qu'on voyait à la veille de la Première Guerre mondiale entre la Russie, l'Empire ottoman et l'Allemagne. C'était les multiples guerres qui sont arrivées dans la décennie précédant la Grande Guerre. Il y a eu la crise bosniaque, il y a eu les deux guerres balkaniques et ensuite l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Et donc je vous disais que entre l'Inde et le Pakistan et la Chine, la multiplication des crises autour du Cachemire, par là, était annonciateur de ça aussi. Et vous savez que moi j'ai toujours pensé, je dis depuis un moment, qu'à mon avis, les guerres de la Chine commenceront ici plutôt qu'à Taïwan. Hein. Donc, et si Taïwan c'était avant fin 2026, il faudrait qu'avant fin 2026, il se passe aussi quelque chose dans ce coin-là. Alors bien sûr, il y a eu cette guerre entre le Pakistan et l'Inde il y a 6 mois qui s'est arrêtée assez vite, au bout de quelques jours. Mais ces derniers mois, depuis la rentrée à peu près, vous savez qu'il y a eu des affrontements entre l'Afghanistan et le Pakistan, entre les talibans d'Afghanistan et le Pakistan, notamment parce que vous avez aussi des talibans au Pakistan qui rêvent de faire la même chose qu'en Afghanistan, déjà. Vous avez aussi autre chose, et ceux-là, ils se sont battus contre le Pakistan. Enfin, il y a eu des attentats pendant la guerre contre l'Inde. C'est les Baloutches. Alors, le Baloutche, c'est au Baloutchistan. Alors, le Baloutchistan, c'est tout ça là. C'est ce truc-là, tout ce morceau-là, vous prenez tout ça là, voilà, entre la ville de Quetta et tout le sud, là, tout ça, c'est le Baloutchistan. C'est-à-dire, c'est un peu le. Et même tout ça là, d'ailleurs, pas juste la ville de Quetta, tout le bassin là qu'il y a autour là. Tout ça là autour du nom Pakistan, que vous voyez ici, tout ça c'est du Baloutchistan aussi. Donc le Baloutchistan, c'est en gros, c'est cette grosse moitié du Pakistan qui est là, qui est la moitié la plus arriérée, la moins développée. Elle est aussi loin des lignes de communication fluviales, etc. Donc forcément, si vous avez peut-être vu satellite, voilà, vous sentez que c'est plus aride, hein, c'est moins. Bon, ça ressemble beaucoup à l'Afghanistan, ça ressemble à l'Iran aussi, c'est. Donc toute cette région-là. Et alors, dans cette région-là, il y a beaucoup de rebelles aussi, un peu comme en Afghanistan, si vous voulez. On fait ça très très court et très sommaire, mais c'est un problème que le Pakistan a réglé depuis longtemps. Bien. Les rebelles baloutches sont vraisemblablement soutenus par les Indiens, qui sont très contents d'avoir une sorte d'alliance de revers avec le Pakistan. Et les Indiens ont réouvert leur ambassade à Kaboul et vraisemblablement essaient de faire pression sur le Pakistan avec cette sorte d'alliance de revers avec l'Afghanistan, si vous voulez. Bien, et ça, c'est ce qui s'est passé depuis la dernière guerre, en fait, hein. C'est-à-dire depuis la guerre de mai dernier. Et moi je ne cesse de dire, vous savez, à propos de ça, comme d'ailleurs à propos du reste, c'est-à-dire à propos du rapport indo-chinois, vous savez que les vols directs entre l'Inde et la Chine ont repris, mais je ne cesse de dire, selon moi, ça ne veut rien dire. Je pense qu'il va à nouveau y avoir du bazar entre les deux. Entre les deux, ou que ce soit entre l'Inde et le Pakistan, c'est pareil, parce que la Chine n'est jamais loin. Si ça venait vraiment à chauffer, la Chine n'est pas loin. Parce que la Chine a intérêt à ce que le Pakistan ne s'effondre pas, naturellement. Donc, que s'est-il passé cette semaine? Cette semaine, vous avez à Delhi, qui est juste à côté de New Delhi, hein, c'est pas deux villes distinctes, c'est le vieux et l'ancien, en fait, vous avez, alors je sais pas si on s'en fiche de le voir sur la carte, voilà, à côté du Fort Rouge, là, qui est ceci, là, le Fort Rouge, c'est ça le Fort Rouge, c'est un truc, voilà, c'est ça, le Fort Rouge, c'est un monument, il y a une forteresse, en fait, tout simplement. À côté, il y a eu un attentat. Alors, un attentat qui a été commis, semble-t-il, par des Cachemiris, donc des gens du Cachemire, hein, des gens qui sont favorables à l'indépendance du Cachemire par rapport à l'Inde, qui prévoyaient vraisemblablement des attaques plus importantes que ce qui a eu lieu, mais qui ont dû agir dans la précipitation parce qu'ils ont pensé qu'ils allaient se faire arrêter par les autorités indiennes. Donc ça a fait quelques morts, et forcément ça a mis les Indiens pas contents parce que, de manière générale, quand il y a des attentats islamistes, puisque ce sont aussi islamistes, ça rend toujours les Indiens assez nerveux. Il faut se souvenir que c'est une attaque du genre qui a déclenché la guerre qu'il y a eu au mois de mai dernier, hein, justement. Mais ce qui a été extrêmement important et frappant, c'est que le lendemain. Je crois pas que c'était le même jour, hein. Je crois que c'était le lendemain, c'était au début de la semaine. Le lendemain, il y a eu un attentat aussi au Pakistan, à Islamabad, et qui a. Ici, là, non. C'est un attentat suicide qui a eu lieu près du palais de justice, et le même jour, il y a eu un autre attentat, ou la veille. Donc c'était vraiment dans un mouchoir de poche dans les 2 jours avec l'Inde, dans la province du Sindh, donc c'est en bas là où il y a Karachi, Hyderabad, je n'ai pas noté dans quelle ville exactement. Il y a aussi eu un autre attentat contre les autorités pakistanaises, et celles-ci qui venaient, alors semble-t-il, qui ont été attribuées en tout cas aux talibans pakistanais. Talibans pakistanais qui sont donc idéologiquement en tout cas, alliés avec l'Afghanistan. Parce que c'est la même idéologie, encore une fois, c'est les talibans. Donc, alors j'ai toujours dit, il y avait un petit côté Tom Clancy, c'est-à-dire que deux pays qui étaient en guerre il y a 6 mois, et puis il y a des attentats islamistes, enfin, il y a des attentats des deux côtés dans la même semaine, ça fait un côté, on a l'impression qu'on a envie de pousser les gens à la guerre, mais en réalité, c'est la situation elle-même qui pousse à ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, la situation entre l'Inde et le Pakistan est très 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 instable. Et donc le Pakistan s'est senti extrêmement menacé, a dit que c'était l'Inde qui avait essayé d'attaquer, les Indiens ont dit c'est du délire, et voilà où on en est. Voilà où on en est à ce stade. Mais ça peut péter. Ça peut toujours péter, il peut toujours y avoir des trucs. Et clairement, il y a un côté, encore une fois, il y a un côté log périodique, c'est-à-dire qu'on se rapproche des difficultés de plus en plus. Et c'est pas impossible que dans 2-3 ans. Alors il y a encore eu un autre attentat, enfin une autre explosion là au Jammu et Cachemire hier, mais là c'était un accident, c'était des explosifs qui avaient été saisis par la police et ça a sauté un commissariat, donc c'était pas un attentat. Donc ça n'a pas nourri, on va dire, l'hostilité, mais assez clairement, on est dans une situation qui est quand même très très instable et il pourrait y avoir d'autres guerres. Alors avant de revenir là-dessus, juste petit mot quand même important sur aussi l'évolution interne du Pakistan, hein, puisqu'on fait de l'historionomie. Le Pakistan est vraisemblablement, pardon, en train de faire sa mutation absolutiste lui-même, dans le sens où les Pakistanais ont voté une modification de la Constitution qui, grosso modo, donne le contrôle intégral de l'armée au chef d'état-major, qui donc devient le vrai chef mais de toutes les branches de l'armée. Qui s'appelle Asim Mounir, je crois. J'essaie de voir si je le trouve. Je vais trouver sa tête. Voilà, c'est ça. Asim Mounir, c'est lui là. Qui en fait devient vraisemblablement. Il ressemble un peu à Nasser. Pas Nasser jeune. Qui en fait devient vraisemblablement le véritable. Chef du Pakistan. Alors il faut savoir que le Pakistan, c'est encore une fois, c'est un État qui a hérité d'institutions démocratiques, en tout cas qui répondent aux standards démocratiques occidentaux. Ils les ont hérités par imitation des Britanniques qui étaient leurs colonisateurs. Mais structurellement, naturellement, le pays n'est pas à ce stade de développement. Il est à un stade beaucoup plus arriéré, il est en phase oligarchique. Et au cours de cette phase oligarchique, vous avez eu, grosso modo, la famille qui règne, on va dire la famille civile, encore une fois, hein, les gens fortunés, un peu l'aristocratie, c'est le clan Sharif. Le clan Sharif, et en face de ça, c'est toute l'histoire politique du Pakistan ces dernières années, vous avez Imran Khan, qui lui est le leader populiste. C'est ce que vous avez en général, hein, souvent dans les fins de régime oligarchique. Le clan Sharif a réussi à faire dégager Imran Khan et à reprendre le pouvoir l'année dernière ou il y a 2 ans, hein, j'en avais parlé, j'en avais fait la chronique ici même. Et simplement, ils se sentent menacés par un éventuel retour du populiste Imran Khan qui risquerait de les virer. Et donc, vraisemblablement, ce qu'ils font, c'est le choix, le calcul à court terme, plutôt que de risquer de tout perdre avec un retour d'Imran Khan, perdre de manière certaine une partie de leur pouvoir au profit d'une dictate, pas d'un dictateur militaire, mais enfin d'un quasi-dictateur militaire, en donnant du pouvoir à Simounir. En fait, c'est ce qu'ils font. Hein, donc c'est un petit peu comme quelque part le Sénat, si vous voulez, qui accepte l'Empire à Rome pour éviter de tomber dans des guerres populistes encore où ils risqueraient d'y laisser leur vie. Donc c'est ça la transition qui est en train de se faire. Donc il aura un pouvoir important. C'est traditionnel dans les mutations absolutistes que ce soit le pouvoir militaire, ce qui caractérise effectivement le chef de l'État absolutiste, c'est avant tout qu'il détient, c'est le pouvoir militaire qui prend le pas, en fait, si vous voulez, c'est clairement ça. Et son pouvoir est indisputé sur le plan militaire et s'impose au plan civil. Donc, c'est ça qui est en train de se faire, mais ça veut dire aussi que vous avez une direction du Pakistan qui va peut-être être beaucoup moins soucieuse du résultat des élections à partir du moment où il dépend moins des élections, où c'est le pouvoir militaire qui est dictatorial. Donc ça peut amener à estimer pouvoir amener le pays dans une guerre, par exemple, peu important l'opinion de la population civile dessus, s'il faut envoyer des gens se faire tuer, etc. Donc ça crée un danger stratégique aussi. Donc à voir si ça va effectivement contribuer à tendre encore un peu plus les rapports entre l'Inde et le Pakistan, ce durcissement du pouvoir au Pakistan, mais il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête. Alors je disais, donc le gros risque, c'est que ça pète à nouveau. Mais, et là, c'est là, on arrive sur la réflexion que je voulais avoir ce soir avec vous, pour compléter la réflexion sur à quoi ressemble cette confrontation mondiale. Et là, alors, j'ai pas de réponse, mais je vous dis où en est ma réflexion. 2 solutions. Soit on considère que ce qu'on voit entre l'Inde et le Pakistan, c'est effectivement l'expression, là aussi, d'une sorte de loi log périodique qui fait que vous avez de plus en plus de crises de plus en plus fortes, rapprochées juste à la crise finale, qui serait en gros l'éclatement de la guerre. Et ensuite, c'est carrément la guerre qui se mène à son terme. C'est-à-dire c'est le moment où vous avez commencé à vous battre suffisamment longtemps pour désormais être en guerre, et la guerre devient son propre but. C'est-à-dire que vous n'aviez pas forcément de but politique dedans, mais vous voulez gagner la guerre. Voilà. Et c'est un peu façon Première Guerre mondiale. Une fois qu'on y est, on y est. Hein. Et on n'avait pas forcément de but de guerre à la base, mais les buts de guerre, on va les inventer au fur et à mesure. Par exemple, la France récupérait l'Alsace-Lorraine. À la base, on ne voulait pas récupérer l'Alsace-Lorraine. On ne voulait pas entrer en guerre contre l'Allemagne. Mais une fois qu'on est en guerre contre l'Allemagne, il faut bien se trouver un but de guerre. Ce n'est pas juste se défendre, c'est ben, on va récupérer l'Alsace-Lorraine. Il y a ce côté-là. Bon. Donc, soit c'est ça. Soit on va vers une espèce d'escalade, on va avoir de plus en plus d'attentats, de choses et de crises, et on va avoir forcément de nouveaux épisodes de guerre. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'à la fin, vous aurez une vraie guerre qui durera... qui sera un peu l'équivalent de ce qui s'est passé au mois de mai, mais qui durait beaucoup plus longtemps. Ça, c'est la première théorie, c'était ce qui était ma lecture jusqu'à maintenant. Lecture alternative que je soumets à votre sagacité, et vous pourrez commenter. N'oubliez pas de mettre des pouces, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important pour le référencement. Autre lecture. En soi, c'est une forme nouvelle de guerre. Notamment parce que là, on parle de puissance nucléaire, hein, pour l'Inde comme pour le Pakistan. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais même en dehors, pour des puissances qui ne sont pas des puissances nucléaires, ou pas toutes. Autre exemple, Israël et l'Iran. Vous savez, dès le début de la toute première confrontation entre Israël et l'Iran, je vous avais dit, et c'est ce qu'on a vu se déployer depuis 2 ans, enfin depuis 1 an, 1 an et demi, c'est, on verra les deux pays se taper dessus, épisodiquement, puis arrêter, puis se battre à plus basse tension pendant quelques mois, puis à nouveau avoir des épisodes chauds où ils se tirent directement dessus, des missiles, des bombardements et tout, puis ça se calmera, etc. Et ça, je le disais, pour Israël et l'Iran, principalement en raison de leur éloignement. C'est pas des pays, bon, c'était particulier. Mais c'est peut-être, en fait, une sorte de règle de ces nouvelles guerres dans un monde qui n'est certes plus le monde de la guerre froide, mais qui, d'une certaine manière, a hérité de choses du monde de la guerre froide et qui seraient quelque part des fondamentaux toujours vrais depuis la guerre froide. C'est-à-dire un système dans lequel il y a malgré tout des grandes puissances comme les États-Unis qui peuvent bloquer les conflits, mais qui en même temps peuvent utiliser le pouvoir de bloquer et débloquer les conflits pour mener le conflit à l'échelle mondiale. Pour envoyer des signaux. Donc c'est un peu comme la guerre froide, sauf que la guerre froide, il s'agissait essentiellement d'éviter les conflits et de régler très vite quand il se passait quelque chose. Là, il s'agirait plus d'utiliser les conflits à droite à gauche pour, comment faire ? Pour faire une sorte de... Oui, de jeu, c'est du jeu de go, d'une certaine manière, à l'échelle mondiale, entre les deux blocs, pour essayer de grignoter, d'avancer sur des fronts. Et à la fin, il s'agit plus de manœuvrer. Ça me fait penser à la façon dont les condottieri faisaient la guerre dans l'Italie du Quattrocento et du Cinquecento. Surtout du Quattrocento. Après les Français sont arrivés et ont foutu le bordel. Vous savez que la fameuse furia francese dont parlaient les Italiens. Alors, souvent, on l'interprète comme une espèce de courage français, c'est-à-dire que les Français arrivaient, etc. Surtout pour les Italiens, c'était effrayant parce que c'était des gens qui arrivaient et qui tuaient, et qui n'hésitaient pas à aller au choc et à s'entretuer, effectivement, à la guerre. Alors que la guerre qui se faisait avant ça était un petit peu plus policée en Italie, pas par civilisation, d'une certaine manière, mais parce que comme la guerre se faisait souvent entre les cités par condottieri interposés, qu'est-ce que c'était que les condottieri ? C'était des patrons de compagnies de mercenaires, en fait. Et donc, ils mettaient leurs mercenaires au service d'une ville, mais peut-être que demain, la ville contre laquelle ils se battaient allait être leur cliente, d'une part. Donc, il ne fallait pas se comporter en pillant, etc., parce que ça pouvait être un futur client. Et d'autre part, il fallait pas non plus mettre trop en danger vos forces et aller trop à la cogne, parce que sinon, vous gaspillez votre capital qui était vos mercenaires. D'accord? Résultat, les guerres en Italie comme ça, entre compagnies de mercenaires, c'était très souvent des guerres de manœuvre. Et où en gros, c'était, vous faisiez une partie d'échecs, quoi, si vous voulez. Et à la fin, celui qui avait bien manœuvré et qui était dans une telle position que si on se mettait à se taper, l'autre savait qu'il était en désavantage, et bien ça se réglait comme ça. Voilà. Je caricature, si vous voulez, le système, mais ça vous donne une idée de ce que c'est, d'une certaine manière, de ce que ça peut être la guerre à l'échelle mondiale depuis le début de l'ère atomique. Et si c'est le cas, alors c'était le cas pendant la guerre froide, bien sûr, entre deux joueurs, mais où ça bougeait très peu, et là on serait dans quelque chose qui serait rejouer ça, mais de manière plus dynamique, hein, de la même manière que la Seconde Guerre mondiale est plus dynamique que la Première Guerre mondiale, mais dans lequel vous avez les joueurs donc qui activent, désactivent, réactivent des conflits qui sont à leur limite, aux endroits qu'ils veulent en fonction de leurs intérêts. Genre, je bombarde l'Iran pour avoir un signal dans telle direction, puis je bloque le conflit pour pas que ça dérape trop loin. Ensuite, je commence à aller taper au Venezuela. Voyez? Je laisse les Indiens et les Pakistanais se taper un peu dessus, ou bien soit je les laisse faire, soit je les encourage à arrêter, vous voyez, ce genre de truc, un peu partout. Et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Ben, ça voudrait dire que ben, si vous avez par exemple une guerre Inde-Pakistan, ben, ça sera peut-être pas un moment où on aura de plus en plus de choses jusqu'au moment où on sera dans une vraie guerre, mais ça sera peut-être que dans quelques mois, vous aurez à nouveau 2-3 jours de guerre et puis ça se réarrêtera. Puis à nouveau 2-3 jours de guerre, et puis ça sera avec à chaque fois l'échiquier global, si vous voulez, qui shift un petit peu dans un sens, et jusqu'à ce qu'il y ait un camp qui perde parce qu'il est échec et mat, quoi. Voilà. Est-ce que. Alors, j'essaie de vous donner une idée, encore une fois, ces réflexions en cours, mais parce que finalement, entre ce qui se passe peut-être entre le Pakistan et l'Inde, et ce qui se passe déjà entre Israël et l'Iran, on voit ce genre de truc. C'est-à-dire, ça fait quelques semaines à nouveau qu'on parle du fait qu'Israël risque de rebombarder l'Iran prochainement. Ou que l'Iran se prépare lui-même à retaper Israël avec ses missiles. Donc le conflit directement n'est pas total, mais en même temps, vous avez des affrontements indirects, avec Israël qui dit que le Hezbollah se réarme. Vous avez l'Iran qui continue d'équiper les Yéménites et les Houthis, qui continuent aussi à tirer sur Israël, donc ils se sont bien fait taper dessus par Israël ces dernières semaines, mais voilà, on est sur ce genre de choses, et donc, est-ce que le conflit mondial ne ressemblerait pas plutôt à la multiplication de ce genre de théâtre? C'est pas impossible. En tout cas, peut-être que c'est ce qui se passera jusqu'à ce que les gros joueurs entrent en jeu. Et donc je vais peut-être terminer là-dessus. Si les Chinois envisagent véritablement d'essayer de reprendre Taïwan d'ici la fin de l'année prochaine, je pense qu'ils ne le feront pas sans, d'une, s'être assurés que les Russes sont solides sur leurs appuis. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose, encore une fois, pour la Chine, c'est une guerre. La Chine, c'est un ancien régime. Donc, elle apprécie la guerre pas comme le fait la Russie, qui est un impérialiste ravageur. La Chine apprécie la guerre comme le fait un ancien régime. C'est-à-dire qu'elle l'apprécie de manière plus prudente, plus mesurée, mais tout en étant certaine qu'elle a une occasion à saisir. Il faut se souvenir que si l'Allemagne a décidé d'entrer en guerre en 1914, c'est parce que l'état-major allemand, du fait que si la guerre démarrait, elle était provoquée par le fait que l'Autriche-Hongrie était en dispute avec la Russie à propos de la Serbie. Donc c'était pas l'Allemagne elle-même qui lançait la guerre, mais pour le grand état-major allemand, il fallait mener une guerre, la guerre nécessaire pour détrôner en fait l'Empire britannique. C'était une guerre qui imposerait de battre la France d'un côté et de battre la Russie de l'autre. L'Empire allemand était convaincu qu'il ne pouvait pas y arriver tout seul, qu'il ne pourrait y arriver qu'avec son allié austro-hongrois. Mais il savait aussi que son allié austro-hongrois ne le suivrait pas dans une guerre d'agression qui chercherait tout ça. Donc quand l'occasion s'est présentée en 1914 avec l'assassinat de l'archiduc et tout ceci, Ça a été documenté, hein. C'est un historien qui s'appelle Fischer qui fait consensus sur les causes et la responsabilité déterminante de l'Allemagne et du grand état-major allemand dans le déclenchement de la guerre. Le grand état-major allemand s'est dit, il faut qu'on y aille maintenant. Parce que si on y va maintenant comme on y va pour aller à la rescousse de l'Autriche-Hongrie, elle sera avec nous, elle va nous aider à battre les Français, puis les Russes, et ensuite on détrônera le Royaume-Uni. C'est ça l'idée. Parce qu'une fois que les Français sont battus, le Royaume-Uni, ils sont pas capables de venir se battre sur le continent tout seul. Ils ont besoin de l'épée française. Et en même temps, on n'aura plus de lance de revers parce qu'on aura battu les Russes, donc on sera tranquille, on aura les mains libres. Et on pourra conquérir un peu d'espace vital aussi. C'était l'idée qu'il y avait déjà chez les Allemands à cette époque-là. Donc c'est ça l'idée véritablement qu'il y avait, qu'il fallait saisir une occasion. Bon. Pour les Chinois, aujourd'hui, souvent, vous savez, il y a les gens qui disent « Ah, Xi Jinping, il est content, il a juste à attendre. En gros, la Russie tombera comme un fruit mûr dans la... » Ça n'a jamais été l'objectif des Chinois. Attendre que la Russie leur tombe dans la main, c'est pas ça la priorité, en tout cas. C'est pas ça. Dans un deuxième temps, peut-être, une fois qu'ils seraient la première puissance mondiale et qui, bon. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, ils ont besoin de la Russie, parce que s'ils n'ont pas la Russie, ils sont tout seuls. Donc ils ont besoin de la Russie. Et avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, s'est ouverte une sorte de fenêtre aussi pour la Chine, qui peut utiliser la Russie pour immobiliser les Occidentaux, parce que si la Chine avait envahi Taïwan, elle n'était pas du tout sûre que les Russes allaient la suivre et la couvrir. Au contraire, bon, elle se méfie des Russes autant que les Russes se méfient de la Chine. Mais à partir du moment où Poutine a besoin de la Russie pour tenir sa guerre et tenir son front en Occident, et qu'en même temps la Chine est capable de lui soutenir ça, et donc que la Russie peut servir de proxy à la Chine pour occuper les Occidentaux, en tout cas tous les Européens au moins, en Europe, ça lui ouvre un espace pour Taïwan. Mais en même temps, il n'est pas impossible que ce qui se passe actuellement ne suffise pas à la Chine. Et donc, il n'est pas impossible, encore une fois, je reviens à mon scénario de la Russie, qui pourrait attaquer l'OTAN directement, il n'est pas impossible que la Chine pousse la Russie à attaquer l'OTAN directement, parce qu'elle n'aura pas beaucoup à la pousser, puisque les Russes sont déjà pratiquement convaincus que l'OTAN est en guerre contre eux. Dimitri Peskov, l'autre jour, le porte-parole du Kremlin, a expliqué que l'Europe, clairement, se préparait à une guerre contre la Russie, à dire que l'Europe veut nous envahir, hein, d'une certaine manière. Et vous savez ce que dit Poutine, hein, si tu es prêt à te, si, si, tu, si tu sens que la bagarre est inévitable, frappe le premier. Donc la Chine aurait tout intérêt, c'est de pousser la Russie, en plus, à effectivement attaquer l'OTAN, pour lui ouvrir son espace en direction de Taïwan. Pour dire, je vais en profiter pour. Donc tout ceci commence à se goupiller quand même de manière assez inquiétante. Et pour terminer, je voudrais vous montrer ceci que vous avez peut-être vu passer, qui est cette vidéo qui est très très. Qui est assez impressionnante. Production de masse de robots humanoïdes en Chine. Alors bien sûr, ça, le robot humanoïde, ça devient la mode, hein, puisqu'on sait que ça, on en aura besoin pour faire du service à la personne, pour remplacer les trucs. Puis bon, ça serait génial d'avoir nos robots majordomes. Mais quand vous voyez la façon dont une entreprise chinoise fait la pub pour ses robots, je veux dire, il suffit d'écouter le son. Je sais pas si vous l'aurez le son là. J'ai pas fait test sur le son des. De ce que je montre, mais c'est assez effrayant. Je veux dire, vous voyez véritablement une armée, c'est-à-dire que vous avez cette espèce de c'est-à-dire qu'ils bougent comme ils défilent, hein. Vous regardez les défilés de troupes chinoises, de manière générale, les défilés même de Corée du Nord et tout, c'est comme ça. Et puis ils vous les font défiler comme ça, défiler comme une véritable armée. Et puis vous voyez, je ne sais même pas si le bruit est uniquement celui qui a été enregistré sur le vif, ou s'ils ont rajouté un bruit pour que ça ait encore plus l'air d'une armée qui défile. Mais voilà, disons que ça envoie un signal. Et ça aussi, quand on parle de la guerre, vous savez, alors Dream with Robot, ça ne se fait pas trop rêver la façon dont il le présente. Mais j'avais parlé, j'en avais dit il y a quelque temps que. Il est vraisemblable qu'au bout d'un moment, les robots humanoïdes, avant la fin de la guerre, arriveraient sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y aurait des guerres qu'on les utilisera à un moment, hein, pour aller sur le terrain, même si c'est un soutien d'appui de soldats d'infanterie. D'ailleurs, ça sera peut-être une amorce Faudra voir un jour faire ces vidéos sur le prochain Moyen-Âge, mais ça sera peut-être une amorce, vous savez, d'ores et déjà, il y a depuis longtemps qui circule, et je crois qu'on commence à le mettre au point d'ailleurs, l'idée d'ailier pour les avions drones. C'est-à-dire que, et je crois que ça va être mis en place sur un certain nombre d'avions, notamment sur les Américains mettent ça au point, peut-être sur le Rafale aussi. C'est-à-dire l'idée d'avoir, en gros, vous avez votre avion, votre système de combat aérien, vous avez votre avion avec votre pilote dans son avion de chasse, mais en plus, il a avec lui un essaim de drones qui ont des fonctions diverses et variées et qui l'épaulent. Et en fait, il commande comme ça à lui seul une petite escouade de drones. Voilà. C'est pas impossible que vous ayez comme ça aussi le soldat d'infanterie, je sais pas, avec exosquelette plus protégé et tout, et qui en fait serait pas tout seul et commanderait toute une escouade de drones humanoïdes comme ça qui se battraient. Et quelque part, ça retrouverait le côté le chevalier et sa suite, vous savez, puisque en général, quand vous dites que vous aviez un certain nombre de chevaliers dans l'armée, il faut multiplier par 10 pour avoir la taille de l'armée, parce qu'ils avaient tous 10 gens de pied divers et variés autour. Donc il y aurait un truc comme ça. Et donc ce que je vous avais dit, c'est qu'il n'était pas impossible que Elon Musk, avec son Optimus militarisé, par exemple, encore une fois, et un côté Crassus dans la fourniture de l'effort militaire américain, au-delà de ce qui serait dans la Space Force. Mais il n'est pas du tout impossible que la guerre évolue petit à petit, et comme elle va durer plusieurs années, que ça devienne aussi une guerre industrielle dans laquelle c'est à celui qui arrive à produire, puisqu'il y a de moins en moins d'hommes pour faire la guerre, arrive à produire le plus de robots de combat pour aller se tuer se tuer au front. Et vraisemblablement, les Chinois partent en tout cas déjà dans cette direction, et ils sont convaincus de cette direction. Donc voilà le genre de forme aussi que risque de prendre tout ça. Il faut se rendre compte que dans la partie guerre industrielle, parce que la Seconde Guerre mondiale a été une guerre industrielle, la Première Guerre mondiale a été une aussi, la guerre froide dans une moindre mesure, même si des stocks considérables ont été construits d'armement, mais il n'y a pas eu à faire cette production tendue et de consommation. Mais si on a une véritable guerre, c'est pas impossible que vous ayez ça, et vous ayez des masses de types, et par exemple, vous aurez peut-être des dizaines de milliers de robots chinois qui viendraient appuyer les troupes russes en Europe, s'il n'y a pas des soldats chinois qui viennent se battre. Déjà, c'est plus facile de faire se motiver à aller se battre très loin de sa mère patrie un soldat robotique qu'un soldat normal, naturellement. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête à la veille de ce début-là. Sur la question de savoir si on est encore une fois dans une loi log périodique ou bien une véritable évolution de ce que peut être la guerre, et quelque part le prémisse et la projection de ce que sera cette guerre à l'échelle mondiale, avec des opérations militaires limitées sur des terrains limités, notamment parce que, encore une fois, plusieurs des grands acteurs sont des anciens régimes, hein, ce qui n'était pas le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des acteurs étaient en impérialisme revanchard. L'Allemagne était en impérialisme revanchard, le Japon était en impérialisme revanchard, l'Italie était en impérialisme revanchard, la Russie était en impérialisme revanchard. Aujourd'hui, il n'y a que la Russie qui est en impérialisme revanchard. Le Venezuela, c'est un ancien régime. L'Iran, c'est un ancien régime. Même la Corée du Nord est vraisemblablement un ancien régime, et la Chine est un ancien régime. Donc, forcément, c'est pas les mêmes ressorts et les mêmes velléités guerrières. Donc, ça devrait jouer aussi sur la morphologie réelle du conflit. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, on va voir si nous avons des questions qui ont été posées avec des dons. Il y a la question du dernier live, puisque je rappelle que la question la plus likée, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, parce que la plus likée est posée au live suivant. Donc cette question qui a été posée et que m'a fort urbainement relié Iruma est la suivante. Vous suggérez que la Chine serait peut-être en train de mener la guerre d'avant en développant notamment ses porte-avions pendant que les USA investissent militairement l'espace, mais l'objectif prioritaire de la Chine ne reste-t-il pas d'empêcher l'Inde de la dépasser et donc de se préparer à un affrontement conventionnel direct avec cette dernière? Ça fait partie du calcul qu'est obligé de faire la Chine, de toute évidence. de toute évidence. Mais malgré tout, la Chine n'a pas non plus tellement le choix sur le plan du spatial, puisque vous avez vu que cette semaine, c'est pas Amazon, enfin si c'est Amazon, mais c'est Blue Origin, le truc de Jeff Bezos, a réussi lui aussi à récupérer sur une barge en mer, donc ce qui avait été un exploit de SpaceX il y a quelques années, a réussi à récupérer son lanceur sur une barge en mer. Donc d'une certaine manière, outre SpaceX, les Américains ont une autre compagnie qui est aussi extrêmement avancée à la conquête spatiale. Donc c'est un avantage pour les Américains. Donc oui, il y a naturellement d'empêcher l'Inde de la dépasser, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Enfin, y a quand même la volonté de reprendre Taïwan, et la volonté de reprendre Taïwan, les Chinois savent que c'est contre les Américains. En revanche, il est possible que les Chinois n'envisagent pas une guerre de très grande ampleur contre les Américains pour, je sais pas, devenir les maîtres du monde. C'est probablement pas ça l'idée. Éventuellement, l'objectif stratégique de la Chine, véritablement, ce serait en gros, d'expulser les États-Unis de leur hémisphère à eux. C'est-à-dire de faire en sorte que les États-Unis repartent à Hawaï, en gros, mais pas au-delà. C'est-à-dire arriver à reprendre, en fait, leur aire d'influence traditionnelle, le Japon, les Philippines, tout l'espace asiatique, en fait. Et la guerre qu'ils envisagent est plutôt une guerre pour ça. Et la prise de Taïwan, l'idée, ce serait de faire s'effondrer l'ordre américain dans cette zone-là. C'est pour ça que les Japonais n'en veulent pas, et qu'ils disent que ce serait dangereux pour eux aussi. Parce qu'en fait, ça les laisserait seuls face à la Chine. En fait, l'idée de la prise de Taïwan pour les Chinois, c'est un petit peu comme la prise de l'Ukraine pour la Russie. C'est l'idée de créer un choc qui remodèle l'ordre local. Le problème, c'est que si vous commencez à le foirer, vous êtes obligé d'entrer en guerre directement avec celui dont vous espériez briser la volonté en engrangeant un succès facile dans cette conquête de quelque chose qui était proche de vous culturellement. Donc voilà. Adams Matula, merci pour le don. Un pourboire d'encouragement pour ce que vous faites, merci. Est-ce que l'AFD, qui commente que la Pologne serait un danger plus grand que la Russie, n'est pas un signal faible de vigilation de l'Allemagne? Alors, c'est même plus qu'un signal faible, c'est une confirmation du chemin que prendrait la vigilation de l'Allemagne. Encore une fois, la vigilation de l'Allemagne, je vous en parle depuis 4 ans, même plus, hein, puisqu'il a été question quelque part un peu d'Atlas des guerres à venir, mais véritablement, l'idée, je mentionne depuis 4 ans. À l'époque, l'AFD n'était pas aussi haut, mais. On voit, si on fait des fois au jour le jour et de semaine en semaine, en suivant les émissions, on ne se rend pas compte, on n'a pas l'impression que les choses bougent. Mais si vous regardez depuis 4 ans, effectivement, l'ampleur qu'a pris l'AFD, qui est désormais le premier parti en intention de vote, vous vous rendez compte à quel point c'est forcément effectivement le risque de vichyisation. Et ça envoie encore autre chose, parce que, comme je l'ai déjà dit, je pense que la Pologne, dans l'émission que j'avais fait sur la Pologne, j'ai dit ça, je pense que la Pologne est un impérialisme revanchard aussi, mais une sorte d'impérialisme revanchard gaulien, si vous voulez, sur le mode du général de Gaulle, c'est-à-dire pas militariste, pas belliqueux, si vous voulez. Ce qui est cohérent aussi avec le fait que c'est le deuxième impérialisme revanchard de la Pologne, puisque le premier, c'était Pilsudski dans les années 30. Donc si vous comptez qu'il y a une nouvelle révolution nationale en Pologne avec la chute de l'URSS, du pacte de Varsovie, ben à ce moment-là, vous comprenez que vraisemblablement la Pologne a une mentalité impérialiste revanchard assez similaire à celle qu'il peut y avoir en Ukraine, même si un peu moins violente sans doute. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Russie envahissait la Pologne, elle se heurterait à une mobilisation et une volonté de résistance en Pologne qui serait aussi forte qu'en Ukraine. C'est pour ça que je ne crois pas plus vraiment que la Russie serait capable, ou alors il faudrait vraiment qu'elle ait une supériorité en matière de drones extraordinaire, et qu'elle sorte vraiment un truc du chapeau, qu'elle nous surprenne. Je ne pense pas que la Russie puisse rouler sur la Pologne pour arriver jusqu'en Allemagne. En revanche, le gros danger qu'il y aurait, c'est que la Russie se trouve en guerre avec la Pologne, que la Pologne résiste, mais que derrière, une Allemagne vichysée, s'auto-vichise, quelque part avec l'AFD, et plante un poignard dans le dos de la Pologne. En lui fermant, en freinant, en lui offrant aucun soutien logistique, etc. Ça, il y aurait effectivement un danger. Et je pense que c'est un danger très important. Et encore une fois, c'est un danger que j'avais évoqué dans l'émission que j'avais fait récemment sur les différents scénarios d'expansion russe. Une question chouard. Gouvernement pro-russe pourrait-il modifier l'orientation politique de la France? Oui, et ça serait également dangereux, tout comme pour l'Allemagne. Merci Geoff pour le don. Allez à Team Fabrice, c'est le moment de donner un peu d'amour à la chaîne. Oui, effectivement, n'hésitez pas. Hiroma qui me dit, t'es KO, tu veux que je stoppe rapidement les questions pour live privé. Ça se voit que je suis KO. Je prends pas compte, j'ai cru que j'arrivais à faire illusion. Mais j'ai la voix qui commence à dérailler. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Bien, bien, bien. Voilà. Bon, je pense que c'est tout ce qu'on avait. Je vais jeter un petit coup d'œil sur les éventuels nouveaux arrivants chez nos chers souscripteurs, puisque vous pouvez soutenir la chaîne comme ça. Vous pouvez aussi, je le rappelle, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont rejoint depuis quelques mois, mine de rien, même si ça se voit pas sur la croissance du nombre des abonnés, parce que j'ai l'impression que YouTube nous écrème beaucoup, de supprime des comptes, etc. N'hésitez pas à aller voir les bouquins. Les bouquins, c'est un très bon moyen de nous soutenir aussi. Et de vous familiariser, encore une fois, avec le fond de l'historionomie, puisque je suis avant tout un auteur qui fait des vidéos YouTube, hein, et pas un YouTuber qui a écrit des bouquins. C'est une petite nuance. Alors, nous n'avons qu'un seul nouvel arrivant cette semaine. C'était il y a 4 jours. C'est Jonathan Raffano que nous remercions. Je vais voir si on a eu du Tipeee. Ça c'est les... Alors, d'accord. Alors, non. Alors, il faut que j'affiche le bon mail. Alors, nous avons Jean Cailleux qui nous a donné un nouveau type récurrent généreux. Nous le remercions bien vivement pour son soutien qui est très important. Adrien également qui nous dit merci pour votre travail, merci beaucoup, et je crois que c'est tout, il n'y a rien d'autre ce soir. Écoutez, je vous remercie infiniment, hein, ceux qui veulent laisser un petit tip même en dessous des seuils de souscription, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça nous aide. Il y a un petit frémissement sur les promotions YouTube, peut-être qu'on va pouvoir bientôt recommencer à en faire pour remonter le nombre des abonnés. Mais j'attends de voir confirmation pour pas jeter votre argent par les fenêtres. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. N'hésitez pas à mettre un pouce encore une fois et à mettre des commentaires. C'est bon pour le référencement de la chaîne. Et si vous avez découvert et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux pour diffuser vous-même, faire venir de nouveaux abonnés. C'est un autre moyen de nous aider qui ne vous coûte pas un radis. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Désolé pour le petit hic du début. J'espère en revanche que l'affichage un peu plus interactif, ça vous a plu et que c'est plus pratique, que ça vous aide à visualiser. Parce que du coup, moi, j'ai pas forcément le temps de préparer des cartes. Mais en même temps, quand les cartes sont préparées, il faut que je pense avant l'émission à tout ce que je voudrais dire pour que les cartes correspondent. Là, l'avantage, c'est que je peux aller vous chercher d'autres trucs. C'est quand même plus sympa en direct. Et puis, je peux vous montrer les vidéos comme j'ai fait. N'hésitez pas à me dire tout ça. À bientôt pour de nouveaux formats et vous laissez pas faire.